Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Pourquoi des choses targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popovi Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.courri@sympatico.ca.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
De la bande phase 2 consacrée aux 40 ans de Malavoie et Ciboissel. Vous étiez présent aux élites de Paris pour le concert anniversaire de ce grand orchestre antillais.
Oui Alain, et on peut dire que c'était un anniversaire très festif, et en plus avec l'orchestre symphonique, ça donnait une dimension spectaculaire à la musique de Malavoie. Sur place, c'était vraiment touchant de voir toutes ces mamies antillaises et aussi leurs enfants et même leurs petits-enfants qui reprenaient en cœur tous les refrains du groupe et qui applaudissaient à chaque nouvelle intro d'un morceau. On pouvait vraiment sentir tout ce que ça représente pour des générations d'antillais. Et puis bon, dans le Zénith, que des places assises.
Ah.
Ouais, donc les gens se sont vite levés pour danser dans les allées, seuls ou à deux. La preuve en musique avec deux extraits du concert, la chanson Roro Maroc, puis Laissez pas aller.
Thank you. Est une chanson qui n'est pas véritablement du répertoire de Malavoie. C'est un hommage que nous rendons à un musicien qui a évolué au sein de la formation. Vous allez reconnaître cette
Tout qu'à changer, mais nous fait tous ces gens. Nous fait tous les dés, nous fait bien innocents. Nous fait qu'à garder, nous fait qu'à tout. Faut qu'on promis chasser, c'était des annonces. Nous fait préférer, comme le plus souvent. Nous fait écouter, nous fait ça rencontrer. Par raison, pas des cas comprendre. Si j'ai tout déjà rêvé, il faut des cas dire l'amour. C'est des boules plus gros, pour les nous créateurs. Et tout qu'à changer, et nous t'es mis des gens. Nous t'es pour les rêves, nous t'es mis à l'innocent. On t'es qu'à garder, nous t'es qu'à mourir moi. La mort va lui s'appeler, la vie c'est dans l'amour. Nous t'es préféré, comme le plus souvent. Tous les débouchés, nous t'es ça en montée. Pas, personne, pas de qu'à comprendre. Le sujet nous t'es déjà aimé. Nous t'es qu'à gagner nous l'amour. Nous t'es pour les plus forts, mais nous t'es à temps.
Thank you.
De Malavoie, donc évidemment j'ai adoré, c'est vrai que bon, le Zénith n'est pas tout à fait fait pour ce type de l'acoustique demande justement ce genre de formation, mais c'était beau, moi j'ai eu des moments de chair de poule, j'ai pas arrêté de chanter, j'étais heureuse et j'adore ça, quoi, voilà.
Malavoie, c'est un orchestre que vous suivez depuis leur début ?
Depuis les débuts, bien sûr, j'ai les premiers 45 tours de Malavoie, c'est clair, et pour moi c'est un groupe qui fait absolument référence dans la musique martiniquaise. Et justement, quand on prend le temps quelquefois de jouer toutes les belles mélodies de chez nous, à tous les coups, il y en a au moins 4 ou 5 ou 10 de Malavoie, ça c'est clair. Donc on est... les gens qui sont des fanatiques de Malavoie. Voilà.
Je fais le miroir de Pierre Save, l'autre groupe phare des Antilles, et on continue à fêter ses 40 ans de Malavoie avec Buscando America, enregistré toujours au Zénith de Paris au début du mois.
Et oui, Alain, et on terminera avec Save à Lucie, l'un des plus grands tubes du groupe.
Romper la cadena.
50 sur RFI.
Thank you. m'emmener au bas de l'envers, au livre et carré. M'emmener au la campagne, au livre et carré. Et m'emmener au pizza, où c'est les complément, où est pour le moins bon chat.
Au Zénith de Paris pour la bande passante, fin de ce supplément de la bande. La semaine prochaine, le retour d'Enrico Macias et le mini-concert de la Grande Sophie. Vos commentaires, c'est à la bande passante à commercial.rfi.fr ou via notre page sur l'un des réseaux sociaux bien connus. Si vous avez manqué le début, la balade de diffusion et ce supplément de la bande, si vous n'êtes pas en Afrique, se déroule sur rfi.fr, si vous n'êtes pas déjà, bien sûr. Enfin, pour plus d'infos sur nos invités, c'est sans doute sur rfimusique.com. Dans 30 secondes, le meilleur traitement de l'info internationale et nationale également. Le congé de fin de semaine n'est pas encore terminé.
From Roots Up, CIUT 89.5 FM, presenting the history and evolution of sound for 25 years and counting. CIUT 89.5 FM, Toronto.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, aujourd'hui la danse des mots vous propose une rencontre avec Tahar Bekri, intellectuel tunisien, professeur, écrivain, poète, qui a fait paraître il y a peu aux excellentes éditions Elizade, au souvenir de Younous Emre. C'est le titre de ce court recueil bilingue. Donc, sur la page de gauche, on lit le texte en français et sur la page de droite, on le lit en arabe. Et le recueil s'appelle donc « Au souvenir de Younous Emre ». Il y a donc un titre même qui est une espèce de d'hommage à un autre poème. Et il y a un deuxième exergue dans le livre. Quand on ouvre la première page, on voit « À la mémoire des martyrs de la Révolution ». Alors, Tahar Bekri, merci beaucoup d'être avec nous dans la danse des mots. Un mot d'abord sur ce titre et sur ce personnage de Younous Emre.
Oui, bonjour. Younous Emre est un grand poète de l'amour mystique qui est turc en Anatolie. Et donc, ce livre est écrit après un voyage en Anatolie, dans la ville de ce poète qui s'appelle Eskisahir. Et c'est une réécriture, si vous voulez, de ce lien en même temps entre la mémoire ancienne de la culture musulmane et comment moderniser cela. Je fais souvent ce va-et-vient entre le passé lointain comme une parabole, comme une figure, une métaphore de la modernité, d'autant plus que ce thème est un thème majeur de la culture humaine et que j'essaie de charger également de mon émotion, mais surtout de l'héritage commun à l'humanité.
Alors, Tahar Bekri, ce recueil que vous avez fait paraître, il est relativement court, hein, il a un petit peu plus de 100 pages, ce qui veut dire un petit peu plus de 50 textes, puisque chaque texte, on l'a dans deux versions, la version arabe et la version française, et les textes poétiques sont extrêmement courts. C'est ça d'abord qui m'a frappé, comme si chaque fois un poème était un instantané. Je sais que vous êtes familier des carnets, vous en avez écrit beaucoup, donc je ne sais pas comment vous écrivez votre poésie, mais on a l'impression que c'est une gerbe d'impression saisie au vol,
qui se traduit avec 10, 12, 15 vers, parfois moins.
C'est un livre de poésie qui se veut un peu un livre de sagesse, comme savait le faire Jalaleddin Rumi ou Younes Emre et beaucoup d'autres. Et donc c'est entre l'aphorisme et la quintessence poétique. Moi, je pense
alors,
que
la poésie... quintessence poétique.
Voilà, la quintessence poétique, pour moi, c'est que l'économie du verbe. Mm-hmm. Autant la prose s'élargit, explique, autant le poème est ramassé et il donne la substantifique moelle, dirait Rabelais. Donc, on peut se passer de l'explication, de l'exégèse, du commentaire et le poème. Si court qu'il soit, il est chargé de philosophie, de paroles profondes, comme moi je l'ai appris également par les proverbes ou les maximes ou les aphorismes, et le poème également dit le monde, il dit aussi ce que je ressens actuellement par rapport à la Tunisie, et donc c'est un va-et-vient dans ce voyage entre le passé et le présent, entre le passé ancien du monde musulman et la modernité, le présent tunisien actuel.
Alors, Tahar Bekri, vous avez l'impression que ces formes brèves, elles se prêtent particulièrement au fait qu'il y ait un écho, que ça fasse réfléchir, parce que quand on dit un poème, il faut bien qu'il y ait un silence après, pour que justement ça puisse se déposer. La lecture d'un poème n'a pas le même rythme que la lecture d'un roman, d'une histoire, d'une aventure. C'est très différent, et puis ça nécessite ces pauses d'une certaine façon.
Alors ce rythme, pour moi, est très important par rapport à d'autres livres que j'ai écrits. Sa brièveté, c'est aussi l'intériorité des choses. D'abord, ce sont des conseils ou ce sont des paroles que je me donne à moi-même en tant que
vous parlez à vous-même quand vous m'avez la poésie.
À moi-même, j'ai la pudeur d'essayer d'apprendre la leçon des choses par rapport au monde et par rapport à ce que je ressens actuellement. De l'autre, cette brièveté, j'aimerais qu'elle soit partagée parce que actuellement, on a surpolitisé l'islam, on a pris en otage la foi, et donc comment actualiser des valeurs humaines, des valeurs sur la tolérance, par rapport à l'amour de l'autre, la paix, aussi l'interrogation sur le pouvoir, sur l'état, l'urgence de l'écriture, doit être aussi préposée, réfléchie avec distance.
La danse des mots, Yvan Allard.
C'est que toute cette revendication de sagesse et de réflexion d'une certaine façon sur la politique aujourd'hui, ça s'exprime dans vos poèmes qui sont peut-être pleins de sagesse mais qui sont aussi pleins de sensations. Et tout ça part très souvent de quelque chose qui a été vu, qui a été senti, qui a été entendu, quelque chose de très simple et qui passe par par l'épiderme, je sensation, il y a quelque chose de très sensoriel.
Mais c'est exact. Moi, ce sont les éléments de la nature. Je pense que l'être humain aujourd'hui, dans un monde fétichiste de mécanisation, de machines, si nous perdons actuellement l'attention à ce qui nous entoure, comme éléments, comme une fleur, un caillou, un arbre, tout ce qui nous entoure, ce n'est pas la politique de l'environnement, c'est vraiment ce qui nous colle à la peau et ce qui fait que nous soyons encore des animaux parlants, avec une parole attentive à la beauté du monde. Je considère que le poème est un devoir de beauté, et cette beauté, moi personnellement, je la trouve encore dans la nature, dans la campagne, et c'est ce voyage que j'avais effectué en Turquie, qui était réel, dans la sensation que j'avais vécue, où le printemps était en retard. Et donc quand on va en fait à Anatolie en printemps, alors qu'il y a encore la neige, il y a encore les arbres nus, et on réfléchit sur aussi le temps, et l'espace comme le temps deviennent aussi les deux sources de cette inspiration.
Pierre abandonnée sur le chemin depuis la nuit des temps, le coquelicot fragile, loin des bottes des conquérants, le bouleau qui attend le printemps. Alors, en effet, Tahar Bekri, rien que dans cette petite strophe, on voit comment une expérience personnelle, ce printemps tardif, se retrouve dans ce que vous écrivez, et on voit l'importance qu'ont les végétaux, la nature, tout ce qui vit, végétaux, animaux, c'est quelque chose de très présent dans ce que vous écrivez.
Oui, exact. Moi, je suis dès mon enfance, je suis né dans la palmeraie de Gabès, le sud tunisien, et je dis souvent, je ne peux pas écrire un poème sans sortir une vague ou une palmeraie, etc. Le monde est pratiquement comme un désert par la violence, par la guerre, et la source d'inspiration, l'art, la création sont comme des palmeraies qui nous sauvent. Et donc aimer au sens le plus profond, c'est vraiment même le coquelicot qui est sur la route que personne ne regarde, est un cadeau pour l'humain, et il ne faut pas qu'il soit écrasé par les bottes des tyrans, des conquérants, des invasions quand on va en Turquie, mais aussi aujourd'hui on le voit chaque jour en Afrique, en Asie, et le monde est assailli par des bottes militaires. Le poète, c'est celui qui se redresse contre cela, et il donne à aimer autant il lui a donné à voir, modestement je pourrais dire donner à émouvoir. Si nous perdons la capacité de l'émotion par rapport à ce qui nous entoure, il y a des risques que nous devenions des objets si matériels que nous perdons notre âme. Et donc la poésie, c'est refaire vivre cette âme.
Alors quand vous décrivez le monde, là vous venez de le faire pour décrire le monde dans lequel nous vivons, vous parlez de désert et vous parlez de palmeraies. On voit bien que ces images ne sont pas prises au hasard et qu'elles rendent justice d'une certaine façon à votre expérience, à votre enfance, au lieu où vous êtes né. Vous êtes un Tunisien et vous vivez à Paris, même si vous retournez très souvent en Tunisie. Est-ce que vous avez l'impression que la poésie est une forme littéraire encore très prisée, justement, en Afrique du Nord?
Ah oui, absolument.
Je viens probablement de plus
oui, certainement. La poésie arabe est vraiment très ancienne. Depuis le 16e siècle, elle est très
ancienne. Il n'y a pas de rupture, elle continue.
Non, elle a pris d'autres formes. Aujourd'hui, on voit beaucoup de revues en ligne, beaucoup de sites internet, de poètes, des blogs poétiques. Il y a vraiment beaucoup d'activités numériques, virtuelles, mais les gens continuent à écouter la poésie. Peut-être la lecture un peu moins au niveau du livre, parce que le poème écrit exige une attention un peu plus, il exige aussi aussi une participation à la chose écrite, un effort. Et on a tendance parfois à l'oralité, à la parole poétique.
Ouais, c'est ça pour la
question, par exemple. Voilà. Oui, mais disons que le monde arabe est encore attentif. Je pense que même par rapport à la Turquie, le mot turc pour dire poète, c'est char, qui vient de l'arabe. Donc il y a une permanence de cela dans cet Orient, où les sentiments humains sont encore présents, où l'attention à la parole poétique est une vision, pas seulement quand on regarde le roman arabe, il date de 1914, donc c'est vraiment récent par rapport à l'histoire de la poésie.
Et c'est vrai, quand on est en Europe, très souvent on considère que la forme reine de la littérature c'est le roman, plus que la poésie, plus que le théâtre, alors que au Maghreb en particulier, je pense que les choses sont un petit peu différentes.
Oui, actuellement je pense que avec ma génération, ou même les poètes plus jeunes, il y a plus de distinction dans l'écriture poétique par rapport à la prose. Tout le monde se cherche une esthétique, une forme de poème court, long. La définition du poème elle-même est devenue très compliquée, très difficile. Plus personne ne sait exactement, tout cela est personnel et subjectif.
Et quand on lit un ou deux textes de vous, il n'y a pas d'ambiguïté, on sait bien que c'est de la poésie. Par la forme, par cette brièveté, par l'absence de ponctuation, par exemple, qui fait que ça donne une parole qui est un peu en apesanteur.
Il y a ça, mais surtout en me concernant, je ne sais pas si je peux exagérer au niveau de l'image. L'image poétique, c'est-à-dire la métaphore entre le surréalisme et la mystique, le poème s'écrit avec beaucoup d'images qui sont pour moi, je dirais pas faciles, mais en même temps proviennent de ce milieu dans lequel j'ai baigné, où les gens parlent avec figure, avec détournement de l'idée directe, ou l'allusion, tout ce qui est figuré provient
vivant,
ici. Pardon?
C'est très vivant, c'est-à-dire
oui,
qu'on évite
que
des images toutes faites, des métaphores, parce qu'on en a beaucoup en français, mais très souvent on a l'impression qu'elles sont très figées. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus souple, par exemple, dans la langue arabe contemporaine?
C'est pas tout à fait fait, mais la présence de la chose détournée, j'allais dire, par rapport à ce qu'on ne veut pas dire directement à l'autre, ou parfois même au pouvoir politique, est quelque chose qui existe dans la pensée populaire, mais aussi les maximes, les proverbes, d'autant plus que cet art est devenu quelque chose de très important depuis la littérature, même classique, littérale, arabe, depuis le 8e siècle, comment dire de manière détournée ou cachée ce qu'on veut dire au pouvoir, à la société, à la religion, aux interdits, afin de déjouer les grands interdits que sont la sexualité, le pouvoir politique et l'interdit religieux. Il y a comme dans cette poésie une volonté de transgresser les trois interdits majeurs, et c'est le rôle du poète aussi de récupérer la culture orale, la formation de l'enfance, tout ce qui provient de cette faveur de la parole courante, mais lui donner aussi aujourd'hui une dimension profonde.
Ouais, ce qui permet à Hervé Cré de contourner en même temps. Vous dites transgresser, en effet on transgresse, mais on contourne l'interdit.
Oui, je pense, en tout cas ce livre a l'ambition d'interroger la société tunisienne aujourd'hui par rapport à l'intolérance, par rapport au salafisme, par rapport à la question de la foi, par rapport au pouvoir, parce que n'oublions pas la révolution tunisienne, c'est pour ça qu'il est dédié
au martyr de la révolution.
J'ai l'impression qu'on est en train de, je pèse mes mots, mais de trahir les martyrs qui ont sacrifié leur vie pour que d'autres profitent de la liberté. Et donc, cette liberté, elle est essentielle dans ce livre. C'est un champ de liberté pour les humains, pour les miens, mais pour le respect des individus. Et donc, c'est pour ça que je leur dédie ce livre. Thank you.
souhaitez réécouter La Danse des mots, rendez-vous sur notre site internet rfi.fr.
Alors, une des caractéristiques de ce livre, on le disait au début de l'émission, c'est d'être bilingue. Vous avez proposé deux versions de chaque texte. Une version en arabe, que je n'ai pas lue, car je ne parle ni de ni l'arabe, et une version française, que j'ai lue, bien entendu. Dans quel sens est-ce que ça s'est fait? Je sais que les deux versions sont de vous. Est-ce que vous parleriez de traduction, ou bien est-ce que quand vous avez écrit dans une langue, puis dans une autre, vous avez écrit deux textes différents?
Alors, le livre a d'abord été écrit en français. Après, je l'ai traduit en arabe.
Déjà, je ne savais pas dans quel sens ça s'était produit.
Voilà.
Votre première écriture a été française.
Voilà. Je suis vraiment bilingue. Je suis le fruit de l'école franco-arabe tunisienne. Donc, j'ai été à l'école franco-arabe dès l'indépendance. Donc, c'est un choix du pays. Et j'ai continué. J'ai fait des études de littérature française. Je suis professeur d'arabe à l'université. Et c'est devenu un acte volontaire, un acte intellectuel également, de faire dialoguer les textes, les cultures. Et évidemment, c'est un double exercice. Je pense que d'une manière ou d'une autre, que toute langue est une création.
Une question plus directe sur la quincaillerie de l'écriture, sur l'artisanat. Quand vous devez traduire, quand vous êtes demandé de traduire vos poèmes en arabe, par exemple, vous partez du texte français pour le traduire, ou vous partez de ce qui a suscité le texte en français pour réécrire en arabe ce que vous avez écrit en français?
C'est vraiment une traduction, mais qui essaye de s'appliquer dans l'imaginaire de la langue arabe, par exemple rien que le titre,
Souvenir,
la traduction du titre, c'est Hadrat Younes Emre. Hadrat, on pourrait traduire davantage par la présence que le souvenir. Et il s'agit vraiment d'une présence dans l'autre, une présence dans la mémoire, dans la tradition, dans l'intériorité. Et donc je vois par exemple que ce terme de Hadrat en arabe est beaucoup mieux si on traduit par présence le titre, n'évoque pas exactement ce que... Et donc je pense que
traduction... Comment traduiriez-vous le deuxième exergue, hein, parce qu'il y a d'abord au souvenir de Younes Emre, et ensuite à la mémoire des martyrs de la Révolution.
Oui,
là, en français, vous évoquez d'abord le souvenir, et ensuite la mémoire. Ce n'est pas la même chose, c'est proche.
Oui,
le souvenir, c'est la présence en arabe.
Là, c'est vraiment... Il s'agit bien de souvenirs, parce que ça fait deux ans que la Tunisie est passée par, malheureusement, ces événements très douloureux, et les Tunisiens qui sont morts. Donc là, c'est dans leurs souvenirs, c'est un rappel aux vivants, un rappel aux Tunisiens aujourd'hui de ne pas oublier ceux qui ont lutté pour la liberté des Tunisiens. Younes Emre, il s'agit vraiment de la présence très forte de l'intériorité de ce poète, mais aussi ce que je ressens actuellement par rapport au monde d'une manière générale. Le poème est aussi une vision, il y a un savoir, il y a une émotion, et il y a tout cela qui doit aussi nous faire réfléchir dans la vision du monde actuel. Donc il s'agit bien d'une présence au monde, plus qu'un souvenir seulement qui est le prétexte de l'autre.
Ouais. Donc il faut trouver en même temps, dans la langue dans laquelle vous traduisez, des images qui correspondent. Quand vous écrivez en français, par exemple, « Laisse l'anguille se faufiler sous roche », bien sûr que derrière ces deux vers, on a l'image d'une locution figée en français, il y a anguille sous roche. Il faut trouver la même chose en arabe.
Oui, absolument. C'est-à-dire quand on a la chance, parce que là, c'est vrai. Bon, moi, je considère que toute langue n'arrive jamais sur un plateau. Il y a le travail poétique, la création.
Là, il faut se construire.
Et on a la chance, il y a beaucoup de chance. Alors, en cherchant, on trouve. Parfois, on ne trouve pas, mais il y a parfois des hasards heureux qui nous rendent la pensée lisible et quelque chose de facile à passer dans une langue ou une autre. Et ça, c'est vraiment le travail merveilleux quand on... je pense que c'est le lecteur qui dira si cette traduction convient ou... Quand le monde l'accueil est favorable, tant mieux, mais je sais que c'est toujours un risque, la traduction.
Est-ce que vous avez déjà eu une activité de traducteur? Est-ce que vous avez déjà traduit de l'arabe vers le français ou du français vers l'arabe des textes qui n'étaient pas les vôtres?
Oui, absolument, j'ai fait ça, mais avec beaucoup de prudence.
Alors ma question c'est, est-ce que c'est la même chose de se traduire et de traduire quelqu'un d'autre?
Non, avec par rapport à mes propres textes, j'ai plus de liberté. Tandis que traduire quelqu'un d'autre, il faut plus ou moins rester fidèle à son rythme, à son image.
Quand on traduit, on sait bien qu'on trahit, enfin l'image est en elle. Si on se trahit soi-même, d'une certaine façon, ça va se régler dans son fort intérieur. Alors que trahir quelqu'un d'autre, c'est plus ennuyeux.
Moi j'ai la chance d'être bilingue, mais je sais que je suis traduit dans d'autres langues. Je ne peux pas mesurer également comment je suis traduit en russe ou en espagnol. Cependant, j'ai toujours refusé de traduire, par exemple, surtout en poésie, de traduire une œuvre entière, un recueil. Parce que je suis assez prudent. Il y a des choses qu'on peut traduire, d'autres pas. Je ne sais pas, par exemple, il y a des poèmes écrits par des poètes actuellement en Tunisie ou dans le monde arabe qui renvoient des réalités politiques très précises ou des calembours très forts dans le dialectal. Donc, je ne sais pas si on peut les rendre. Ou alors, il faut le problème de la note dans la traduction.
Oui, mais ça, c'est facile, l'échec du traducteur quand il y a une note en bas de page. Voilà. On a mal pour lui, on dit « Oh, le pauvre !»
Et donc, j'ai traduit des extraits de certains poèmes. Certains sont repris dans les poètes de la Méditerranée chez Gallimard ou d'autres.
Alors, je disais tout à l'heure, Tahar Bekri, que vous écrivez des poèmes. Vous avez fait paraître à plusieurs reprises des ouvrages que vous intitulez « Carnet ». Est-ce qu'il y a une parenté entre l'écriture du poème et l'écriture du carnet? Est-ce que c'est justement à la fois une impression et une phrase qu'on saisit au vol, qu'on écrit très vite, sans forcément être à sa table de travail, mais ou alors c'est un souvenir de quelque chose qui vous vient alors que vous êtes avec des gens, que vous vous promenez, que vous êtes dehors?
Oui, les carnets, toujours chez Ilivad, il y a le livre du souvenir, c'est 20 ans de carnet, et c'est Salam Gaza chez elle également. J'appellerais ça presque mon atelier d'écriture. La naissance de poème, c'est-à-dire quand on n'écrit pas directement le poème, je prends des notes, des réflexions. C'est pas régulier, c'est pas quotidien, c'est pas un journal, mais c'est des moments très très forts où on voit l'ébauche de texte, où on voit les paroles qui surgissent, ou parfois la peur aussi d'oublier un souvenir ou une image.
Donc il faut fixer ça tout de suite.
Oui, je pense. Et donc ce sont des phrases, des idées qui m'accompagnent et qui deviennent peu à peu, qui font objet d'un livre une fois que on réfléchit sur le plan théorique, sur le problème de la signification exacte de tel lieu, de telle chose.
Bah écoutez, Tahar Bekri, c'est texte qui vous accompagne, il nous accompagne également. Je rappelle que vous venez de faire paraître aux éditions Elisad, au souvenir de Younous Emre. Merci encore d'avoir été avec nous dans La Danse des Mots. C'est une émission proposée par la RFI et par le Centre National de Documentation Pédagogique, Lucie Boutlou, Éléonore Krenik, Ivan.
Ça me rue.
Arrière grand-père, il a défriché la terre. Son arrière grand-père.
Vous comprendrez que je ne peux pas entendre un rigodon sans penser à ma famille. Je vous l'ai dit tantôt, ce soir, on est entre nous. Alors, j'ai invité ma famille. Je leur ai fait une demande spéciale. Je veux vous faire dire ce qu'on vivait dans la famille, chez nous. Quand on fêtait, simplement. Et je dois vous dire que j'ai un petit doute qu'il y a bien du monde ici qui pour qui c'était pareil dans leur famille. Je suis sûre de ça.
Et toi, tu donnes encore, hein? Tu sais pas que les couleurs tropicales ont commencé déjà? Et toi, tu suis quoi?
Ah, couleurs tropicales, oh, yeah.
Ah, ouais.
L'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère.
Couleur tropicale avec le
Richard Rifono est toujours à la réalisation, Annabelle Jogamandi, toujours notre assistante. Hommage à Edith Coppel. Voilà déjà 10 ans qu'elle nous a quittés. C'était le 20 janvier 2003. Elle n'avait que 39 ans. Le 25 janvier 2003, lors de ses obsèques au cimetière du Père-Lachaise à Paris, ils seront des milliers à lui rendre tous les honneurs et à la remercier pour tant d'amour à travers ses chansons.
À l'ancien amour, au cabriolet tout le temps. Parmi toutes les étoiles, Claudie, c'est l'idéal. C'est Edith Lefel, dans Couleurs tropicales, avec Claudie Sciarre.
Edith Lefel est de cette génération d'artistes qui a fait du zouk une musique internationale. Elle appartient à ce petit nombre d'interprètes qui a su créer une technique de chant en s'inspirant de toutes les diversités culturelles qui font les Antilles. Si vous demandez à une personne, inconditionnelle de zouk, de vous citer les trois plus grandes chanteuses de l'histoire de cette musique, elle vous répondra sans aucune hésitation, Jocelyne Berroir, Tania Saint-Val et Edith Lefel.
Thank you.
est né le 17 novembre 1963 à Cayenne, en Guyane, d'une mère originaire de ce département français d'Amérique du Sud et d'un père martiniquais. Edith, enfant, est une écolière plutôt studieuse. Elle cultive aussi une vraie passion pour la chanson. À la maison, elle interprète pour ses proches les succès d'Edith Piaf. Elle écoute également beaucoup Jacques Brel et Charles Aznavour, ainsi que les disques créoles de ses parents. Après avoir séjourné en Martinique, sa maman s'installe à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Edith le fait à 14 ans. Edith y poursuit ses études et s'oriente vers le droit. Mais la musique est là, omniprésente. En 1984, Edith intègre en tant que choriste le groupe La Mafia, dirigé par l'afro-caribéen de la Martinique, Jean-Michel Cabrimol. Il est le premier à lui donner sa chance. Et on commence à parler d'elle dans le microcosme de la musique antillaise. Simon Jurad, leader du mythique Opération 78, artiste phare des années 70, l'invite à chanter. Le titre L'Amour sera le tube de l'album et le premier succès d'Edith Lefebvre. Lors d'une tournée en Martinique avec Jean-Michel Cabrimol, elle fait la connaissance de Jean-Luc Alger, qui depuis peu travaille avec le guitariste Dominique Jangoul sur un projet de groupe. Quelques mois plus tard, à Paris, les deux complices l'invitent à chanter Ice Maman. Cette chanson, qu'Edith Lefebvre interprète en duo avec Jean-Luc Alger, est aujourd'hui un des titres cultes de l'histoire du zouk.
Couleur tropicale avec le guitar.
Couronne Edith Lefebvre de laurier mérité à une époque où le zouk est une révolution musicale, un raz de marée et la concurrence est rude, des stars sont en train de naître et pas des moindres. C'est dans ce climat d'euphorie où s'expriment tant de talents que Georges Depp, le producteur de Cassav, Malavoie, Didier Saint-Pré pour ne citer que, lui propose d'enregistrer son premier album solo. Edith accepte. La réalisation est confiée à Georges Décimus, le bassiste de Cassav. Le résultat est exceptionnel. À ce jour, peu de productions ont réussi à atteindre ce niveau de qualité. On dit même que cet album, baptisé La Clé, a coûté plus de 800 000 francs français. Un faux ou un tox, on ne le saura jamais. Cet opus est une merveille. Et en pleine révolution zouk, Edith nous offre une mazurka moderne qu'elle interprète avec Ralph Tamar. La chanson est signée Jean-Claude Nemro. Le clavier de Cassav.
Merci,
Mémé, Edith Lefel et Ralph Tamar. L'album La Clé recevra un prix Facem en Martinique. Le succès discographique est une première étape pour Edith. Comme elle l'a fait dans le disque, elle chemine lentement mais sûrement vers ce qu'elle aime vraiment, la scène. Adolescente en Martinique, elle avait fait ses premiers pas dans l'orchestre de bal de son frère. Puis, on l'avait entendue aux côtés de Jean-Michel Cabrimol et Simon Jurade. En 1987, elle remplace, un peu au pied levé, Marie-Josée Ali au sein de Malavoie, la mythique formation martiniquaise. En 1993, pour les 25 ans de Malavoie, elle interprète La Sirène, une chanson de Loulou Boislaville pour l'album Matébis, un titre qu'elle reprendra lors de son tour de chant à l'Olympia le 11 mai 1996. N'a aucun secret pour ses fans. Côté ville, on sait peu de choses, si ce n'est sa liaison avec Ronald Rubinet durant l'enregistrement de l'album La Clé. Lors de la première tournée du Grand Méchant Jouk, ils seront inséparables, avant d'officialiser leur union, et le 10 juin 1990, Edith Lefel donne naissance à des jumeaux, Chris et Mathieu. La collaboration d'Edith et Ronald en musique est explosive. Ils collectionnent les succès, que ce soit sur les albums de Ronald, ou les concepts Ethnicolor, Jeux de Dames, ou les albums d'Edith. Le duo Rubinel-Lefel est une machine à tubes et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Vraiment rien. Car lorsqu'ils se séparent, à la ville, à la scène, leur complicité ne semble pas altérée. En 1996, sur son label Rubicolor, Ronald réalise pour son ex l'album Rendez-vous où figure Bombe Saint-Loup. Il co-signe le titre, le énième succès pour Edith Lefel. Tout ça qui t'a passé de côté. dans le milieu de la variété antillaise a bénéficié de budgets importants pour ses clips et ses albums. Elle a reçu bon nombre de récompenses, de prix SACEM, dont l'un d'interprétation pour Messi, son deuxième album. En 1997, le Cora de la meilleure artiste de la diaspora. Elle a connu une brillante carrière de choriste auprès d'artistes renommés tels que Philippe Laville. Bien des scènes et des publics ont vu cette immense chanteuse accomplir sa tâche, assouvir sa passion avec tant de générosité. Edith Lefel, contrairement à d'autres, a su se préserver en n'abusant pas de prestations en playback dans les boîtes de nuit antillaises qui ont brisé l'aura de plus d'un artiste de grand talent. Durant un temps, Edith Lefel douta et n'eut plus le même entrain pour le métier de chanteuse. Elle se sentait trop vieille pour tout ça. Trois hommes lui redonnèrent goût à la vie musicale. Éric Bassel, le patron du label Créon Musique, Harry Diboula, le chanteur et le producteur d'Edith, et Frédéric Wurtz, l'arrangeur. Avec ces trois messieurs, elle reprit le chemin des studios pour enregistrer l'album « Si seulement ». Pour Edith. Le 20 janvier 2003, au petit matin, l'un des membres de sa famille m'appelle et m'apprend son décès survenu dans la nuit. Ce fut un traumatisme pour toute la communauté des Français d'Outre-mer et pas seulement. Durant deux jours, des milliers d'anonymes vinrent au funérarium des Batignolles lui rendre un dernier hommage. Et le 25 janvier 2003, près de 5000 personnes, un record, l'accompagnèrent en sa dernière demeure du cimetière du Père-Lachaise à Paris. Edith Lefel nous a quittés à l'âge de 39 ans. Si seulement le titre, si seulement l'ultime album d'Edith Lefel à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Pour terminer cette émission spéciale, nous vous proposons de réentendre la voix d'Edith, pas en chanson, mais en interview. La sirène est souvent venue nous voir. Le jeudi 27 septembre 2001, Edith Lefel était dans Couleur Tropicale afin de nous parler de son best-of. Écoutez. Edith, ma sœur, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Puis-je me permettre de dire qu'il y a quelques mois, tu avais des doutes sur l'orientation que devait prendre ta carrière.
C'est vrai.
Et on peut se dire que la sortie de ce best-of bien nous prouve que cette période de doute est déjà passée et loin derrière toi.
C'est sûr. C'est vrai, mais je crois que c'est très important pour un artiste de se remettre en question tout le temps. On a besoin de prendre du recul. On ne peut pas, après 17 ans par exemple, faire des albums à la filée comme ça, sans se poser de questions. Et c'était très important pour moi. En fait, c'est un tournant, c'est normal, je pense que tous les artistes passent par là. Et ce destin, justement, je ne dis pas qu'il c'est toute une vie qui est renfermée, mais enfin, c'est un nouveau départ, en tout cas en ce qui me concerne.
Ouais.
Il y a tellement de choses qu'on aimerait exprimer, qu'on aimerait chanter, et qui ne sont pas forcément écoutées. c'est bien ça, t'en fais souvent bien 10 ou 12 titres sur un album, et qu'est-ce qu'on va entendre sur les radios? On va en entendre un ou deux, peut-être. Bon, mais c'est pour ça que on a plein de choses à dire, et c'est vrai, qu'on aimerait qu'on nous entende un petit peu chanter autre chose que tout ce que tout le monde passe, en fait.
Nous savons ce que tu as apporté à la musique. Oui. Dis-nous ce que la musique, elle, t'a apporté dans ta vie de femme.
Eh bien, déjà l'envie d'écrire, parce que j'ai commencé à écrire des poèmes assez jeune, et puis la rencontre avec Ronan Robinet, qui a su aussi sentir mes sensibilités, qui a su quel genre de chansons, de mélodies que j'aimais chanter, et donc ce sont toutes ces rencontres, je crois, qui ont fait que la passion que j'avais toute jeune de chanter à la maison, dans ma salle de bain, à casser les oreilles de tout le monde, a pu en fait devenir, bon, je ne dirais pas un métier, mais ça reste une passion quand même. Je crois que la musique m'a apaisé, m'a permis d'extérioriser, d'écrire des choses que tout le monde vit, en fait.
Merci Edith d'être passé nous voir. La tradition veut dans Couleur Tropicale que ce soit l'invité qui choisisse le dernier titre.
Oui.
Et tu as souhaité nous faire entendre Petite Sœur.
Voilà, une autre facette, une autre idée.
Ouais.
Voilà.
C'est ta chanson fétiche parmi les trois titres inédits. C'est ce titre-là qui lui tient vraiment à cœur.
Oui.
Elle n'en a pas parlé, elle n'a pas voulu trop en dire.
Voilà.
Elle aime toutes ses chansons. Mais bref.
Oui, tout est dans le texte.
Tout est dans le texte. Merci, Edith.
Merci à vous.
Aime-vous voir, je crois. Quelle classe notre petite sirène, notre Edith Lefel. J'étais très attaché à elle. Edith était ma sœur et je l'aimais dans ses moments de joie comme dans les instants de doute. Allez, voici un autre bonheur en compagnie d'Edith, la diva. Sur scène, c'était à l'Olympia de Paris le 11 mai 1996. Edith Lefel nous chantait Contre-temps.
CIUC 89.5 FM, Toronto, presenting the history and evolution of sound. 25 years and counting, CIUC 89.5 FM.
Toronto.
Vous écoutez Pourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Ça commence.
Richard Ritwono est à la réalisation, Annabelle Jogamandi, notre assistante. Vous devrez répondre à la question rituelle, est-ce tube ou culte, et le thème de ces couleurs tropicales sera musique de résistance, une séquence consacrée au reggae et à des sonorités sud-africaines.
Cette chanson de Bob Marley, commercialisée un an avant sa disparition, est le plus vendu de ses 45 tours, single comme on dit aujourd'hui. Un titre pop qui n'enlève rien à l'esprit de résistance du reggae que Robert Nesta Marley a plus que d'autres su incarner. Could You Be Love, ses tubes et ses cultes. Pour les intégristes du reggae originel, ce hit était trop commercial pour paraphraser Chris. Et certains préféraient écouter des artistes moins connus, plus dans l'underground, comme le groupe Black Slate, qui la même année, en 1980, signait un tube intitulé Amigo. Écoute ça, tube et ses cultes.
Amigo.
rejoignez, bonne arrivée. Vous êtes dans Couleur Tropicale, consacré aux chansons tubes et cultes, aux chansons de résistance. À l'instant, Black Slate, groupe composé de musiciens noirs et blancs, parmi lesquels le célèbre chanteur Dennis Brown. Black Slate est né en 1974. Anigo sera le grand succès du groupe. Black Slate est moins présent que durant la décennie 80, et pourtant il continue les tournées avec les chansons des 6 albums. Allez, encore plus underground, mais très connu des spécialistes de reggae, le groupe Kingston Feeling, pour une chanson que vous connaissez peut-être, en tout cas je l'espère, sinon découvrez. Allez, tout le monde peut chanter, tout le monde.
No, just for the fun.
Justice pour les pauvres. En 1985, pour le gamin de banlieue que j'étais, le texte de cette chanson nous confortait dans nos combats qui étaient les nôtres, ceux pour l'égalité, alors que nous n'étions que des adolescents. Kingston Feeling nous a d'abord fait danser avec ce hit, puis réfléchir à notre condition et celle de tous les damnés de la Terre. Ce titre n'est sorti qu'en single, un maxi 45 tours pour être précis. Alors, ça avait la taille d'un 33 tours, vinyle donc, mais il n'y avait que deux titres. Non, je l'explique pour les plus jeunes d'entre vous. Kingston Feeling ne sortira plus d'album et No Justice for the Poor est quasiment introuvable. Et il y a peu de choses sur l'histoire du groupe.
si on a que ça les démange, on commence avec Rosine par les infirmières parce qu'ils sont les plus nombreux.
Est-ce qu'il vient sur la grande muraille parce qu'on tient la bravitude. Ouais. Couleur
tropicale avec la différence.
Après le reggae, les musiques de résistance continuent avec l'Afrique du Sud, alors sous la botte de la bête immonde de l'apartheid. Voici Johnny Clegg. Fafuka, Johnny Clegg et le groupe Juluka, le premier groupe international du Zoulou Blanc. Vous souvenez-vous du complice de Johnny Clegg? Vous avez quelques secondes pour trouver. En 1982, l'Afrique du Sud a toujours pour régime l'apartheid, une politique de développement séparé entre blancs et noirs. En réalité, le développement n'a profité qu'aux blancs. Nelson Mandela est encore en prison à Robben Island. Il ne sera libéré que le 11 février 1990. C'est dans ce contexte qu'un blanc décide de transgresser les lois, défier le pouvoir, désobéir à Marie Guljouane, alors président de cette nation raciste. C'est le moment de répondre à la question. C'est avec le Sud-Africain noir, Sipho, que Clegg monte Juluka en 1979. En 1985, ils ne sont plus ensemble. Sipho est allé cultiver ses terres. Johnny Clegg forme un nouveau groupe, Savuka, dont le plus emblématique des succès est une chanson devenue culte, Afibonanga, commercialisée en 1987. Un an auparavant, un Américain veut lui aussi apporter sa pierre à la destruction de l'apartheid, telle une intifada. C'est Paul Simon. Dans les années 60, il formait le groupe Simon & Garfunkel avec Arthur Garfunkel. Graceland est un album de résistance, un hommage à la dignité et au courage des victimes de l'apartheid. Paul Simon pour You Can Call Me All, un tube de 1986, et Graceland est un album culte.
Why am I laisser, commenter et poser vos questions sur la page Facebook et sur le Twitter de Couleur Tropicale. Exprimez-vous avant, pendant et après l'émission.